Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les facteurs cheval de la critique. J'ai nommé Pierre Murat de Télérama, Eric Neuhoff du Figaro, Michel Simon de Positif, Jean-Marc Lalanne des Arts Occuptibles. On parle ce soir de Double Vie d'Assayas, de La Mule de Eastwood, de Glace de Shyamalan, qui est le gros succès d'après les chiffres de cette semaine, de Green Book de Farelli, de L'Incroyable Histoire du Facteur Cheval, de Tavernier, de Nils Tavernier, de Continuer de Joachim Lafosse et de L'Ordre des Médecins de David Roux. Beaucoup de films donc et dans le courrier de la semaine. À propos de Border, le film d'Ali Abazi dont on parlait la fois dernière, Nicole de Lomini a trouvé les acteurs extraordinaires. Elle regrette qu'il ait fallu attendre l'intervention au théâtre de l'Alliance française d'un spectateur pour que soit fait le lien avec l'imaginaire des légendes suédoises tellement présent dans ce film. Merci à lui. Pour Sandrine Guénard de Lyon, Border interroge les troubles moraux de son héroïne, sa capacité à apprivoiser des instincts animaux ou des désirs humains, mais surtout les choix qu'elle va devoir faire entre une vie radicale en marge ou l'intégration. Au contraire, Aurélie Kevin de Maison Alfort trouve Border « on ne peut plus poseur ». Je suis resté jusqu'au bout, mais j'avoue que j'ai regardé la seconde moitié d'un œil tout en jouant de l'autre à la belote sur mon smartphone et je n'ai rien raté. Christine Fink demande même à quoi sert ce film Border, pour qui nous prend ce réalisateur, c'est totalement idiot. Qu'elle n'avait sur un fond de thriller pédophile, c'est débile. Et pour Pascal Hénard de Bourg-les-Valence, eh bien, c'est un film trop long, décevant au fur et à mesure de l'histoire. On aurait dû sous-titrer ce film « La vie sexuelle secrète des trolls ». Pierre Cusor, lui, ne partage pas les éloges du masque pour les invisibles de Louis-Julien Petit. Nous sommes plus proches de José Dayan que de Ken Loach. Nous sommes en fait devant un téléfilm sympatoche, comme aurait dit Pierre Murat. Un même sentiment de Bruno de Sable. Mes chéris du dimanche soir, je m'en veux d'avoir été déçu par les invisibles. Je vous ai entendu faire référence à Ken Loach et justement, c'est bien le problème, n'est pas Ken Loach qui veut. Tenter à la fois la chronique sociale et la comédie est un exercice aussi compliqué que de réussir un plat sucré salé. Et là, c'est raté. Voilà, sinon, Gigi Loriot de Tours n'a pas aimé l'heure de la sortie de Sébastien Marnier, film ennuyeux, qui n'a aucun rythme, dont le dénouement est ridicule. En plus, il est laid dans les images, dans les dialogues, dans la musique. Au contraire, Roger Kelmel de Saint-Max en Meurthe-et-Moselle remercie les critiques du masque de m'avoir incité à aller voir ce thriller qui fait froid dans le dos. On reste sous le choc devant un réquisitoire visionnaire glaçant adressé à notre humanité collectivement suicidaire. Enfin, pour clore ce courrier, des auditeurs de la fois dernière, nous invitant, vous, pour ceux qui nous ont écoutés, à aller voir dans le monde entier le Roma de Cuaron au cinéma. Alors, il y en avait qui nous proposaient de le voir en Australie ou en Espagne. Donc, Jean-Jacques Corio d'Aix-en-Provence, lui, eh bien, il va nous faire faire des économies puisqu'il nous dit pas besoin d'aller à Bruxelles, Barcelone ou en Australie pour voir Roma sur grand écran puisqu'il sera jeudi 31 janvier projeté sur grand écran à Aix-en-Provence, à l'Institut de l'Image, et cerise sur le gâteau, ce sera gratuit. Et je me suis renseigné, et donc je peux vous dire qu'en plus, il sera également projeté cette semaine à Marseille, c'est demain, le lundi 28 janvier, à Montpellier le 30, et à La Ciotat le 3 février. Donc il y a plein d'occasions de le voir, pour le plus grand bonheur de Jean-Marc Lalanne, sur un grand écran. après le petit, je dis bien petit, 15h17 pour Paris. Voici donc La Mule, le nouveau film de Clint Eastwood qui est à la fois devant et derrière la caméra avec Bradley Cooper et Andy Garcia, l'acteur de 88 ans. Incarne ici Earl Stone, un vieil horticulteur ruiné et endetté de l'Illinois qui se fait embaucher par un cartel mexicain pour transporter, comme le fait souvent Eric Nohoff, de la drogue dans son pick-up noir et traverser la frontière à petite allure. Lui respecte les 80.
Hein. Les 80 ans même.
Ce qui va lui permettre de racheter la maison d'où il avait été expulsé, payer les études de sa petite fille et cotiser pour le bal annuel des vétérans du Vietnam. Et puis le flic, eh bien, c'est Bradley Cooper qui se lance aux trousses de la mule. Est-ce qu'il faut ajouter, c'est devenu une rengaine dans tous les films d'ailleurs dont on va parler ce soir quasiment, que ce film est inspiré par une histoire vraie. Eric ?
Ah bah ça réconcilie avec Clint Eastwood parce oui. que le film sur le Thalys c'était quand même une purge sans nom. Voilà.
Et là c'était plus qu'une purge.
On voit qu'il s'est dit je vais revenir devant et derrière la caméra et vous montrer que je peux refaire un Grand Torino au petit pied parce que c'est quand même un film assez nostalgique, assez pas mou mais paisible. C'est un film sur Clint Eastwood. On passerait son temps à le regarder.
Moi, j'y ai presque vu un adieu.
Mais oui. Plus on repense au film, plus on se dit c'est ça. Regarder Clint Eastwood pendant de longues minutes en train de conduire son pick-up là sur ses routes désertes. On regarde ses rides, on calcule son âge, on voit sa peau fine comme du papier de soie, et on se dit c'est peut-être la dernière fois qu'on voit Clint Eastwood. Et il doit le savoir aussi, parce que s'il a tenu à revenir, à faire jouer sa fille par sa propre cadette, à jouer le rôle d'un type qui a toujours négligé sa famille, qui est allé à un concours d'horticulture plutôt que d'assister au mariage de sa fille. Et il y a toute une série d'épisodes de repentir qui sont très très touchants. L'histoire est complètement invraisemblable, même si elle est vraie.
Ah ben bah elle est vraie, oui, mais, elle n'est pas invraisemblable.
Il reprend un peu les codes de Grand Torino, c'est encore un vétéran de la guerre de Corée, qui est raciste, qui se permet des blagues. Donc Clint Eastwood sait très bien qu'il est le seul à pouvoir encore les faire, que ce sera après complètement interdit. Trimballer de la drogue, ça le gêne pas du tout, ça lui permet de rembourser ses dettes et puis d'aider les gens qu'il a laissé tomber pendant toute sa vie précédente. Et puis en plus, 88 ans, mais quelle santé! À un moment donné, il s'arrête dans une chambre de motel, il fait venir deux prostituées, elles sortent au petit matin avec des cernes sous les yeux. Il va chez le narcotrafiquant au Mexique, le gars lui offre deux bimbos en bikini.
Ça te fait envie, ça.
Ah ouais. Ça conserve de trimballer de la drogue, il n'en prend pas. Et non, puis c'est un éloge de l'indépendance, et puis c'est vraiment un morceau d'Amérique, Clint Eastwood. On ne peut plus le regarder sans penser que c'est tout un cinéma qui peut-être va bientôt disparaître avec lui.
Pierrot ?
Bah, c'est une grande réconciliation de mon côté, en tout cas, parce que...
Pour nous tous, à peu près. Hein.
Non, mais non seulement le dernier était très mauvais, mais les autres, quelques films précédents n'étaient pas terribles. Jersey Boys, Au-delà, il avait fait quand même pas mal de navets. Et là, c'est vraiment son retour dans un rôle qu'il connaît par cœur. Mais moi, il me semble qu'il n'est jamais meilleur que lorsqu'il interprète quelqu'un de... à côté des lois et qui traverse le pays. Moi, j'ai vraiment pensé à des films encore plus anciens que Grand Torino, comme Honky Tonk Man, par exemple, qui date des années 80, ou Un Monde Parfait, qu'il avait réalisé, où les paysages tenaient un grand rôle, et il y a en effet une sorte de paisible amoralité dans le film, que je trouve vraiment très revigorante et très belle. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un très bon Clint Eastwood de fin de carrière.
Michel ?
Oui, c'est un grand film, mais c'est vrai que ça a été déjà dit, je répète un peu ce qui vient d'être dit, c'est tout de même un bilan mélancolique sur lui-même. C'est-à-dire que un peintre pourrait dire
la même chose. Même crépusculaire.
J'ai passé mon temps sur un chevalet, je ne me suis pas occupé de mes petits-enfants, de mes enfants, de ma femme, etc. C'est-à-dire que c'est un aveu tout de même terrible, et on sait que son ex-compagne, Sandra Locke, est mort il y a deux mois. Et il a vécu aussi avec Sandra Locke, et il pense à tout ça. C'est-à-dire, c'est un homme qui se rend compte que toute cette vie professionnelle l'a dévoré. Il le regrette pas, parce que c'est un artiste, donc il peut pas sacrifier sa vie d'artiste. Mais en même temps, il a sacrifié sa vie privée. Et ça, c'est bouleversant. Et puis aussi, alors moi, ce que je trouve très beau dans ce film, c'est effectivement pas seulement l'adieu au grand cinéma classique américain, mais peut-être on se dit qu'il n'y a plus personne avec ça, quand il va disparaître, qui sera capable, comme Howard Hawks ou comme John Ford, de filmer avec une telle évidence. C'est-à-dire, on ne discute pas. Il ne met pas la caméra dans le lustre. Il ne met pas la caméra derrière les flammes d'une
Qu'est-ce que tu as contre la caméra dans le lustre?
Oui, mais parce que les petits malins qui veulent montrer qu'ils sont des prodiges de la caméra, c'est filmé avec une évidence, comme les
tous. Je vois que tu as vu le dernier film d'Ariel Dombal, toi.
je me suis évité ce supplice. Donc, je suis d'accord avec Pierre que c'est, il revient au road movie. Tous les 10 ans, il faisait un road movie et il découvre l'Amérique. Et c'est un film aussi très drôle. Il y a énormément d'humour. Alors en Amérique, il y a des gens qui lui ont reproché le racisme. Ils disent, mais c'est pas le racisme de Clint Eastwood, c'est le racisme du personnage.
C'est pas lui.
Il a montré.
C'est un vieux débat.
Il a montré qu'il aimait les Noirs. Il était un des rares qui a montré vraiment des Noirs avec une sympathie formidable dans le cinéma hollywoodien.
Et la rencontre entre les deux, enfin le flic et lui, sont vraiment très très belles, très dignes.
Jean-Marc.
Oui, moi je pense qu'on peut pas tellement chercher le film sur le terrain du racisme et que c'est un peu facile de référer ce qu'on connaît en fait des prises de position publiques de Clint Eastwood à ce film.
Prise de position raciste.
Non, je veux dire politique.
Ah ben, c'est autre chose.
Oui, mais je trouve que tout ce qu'on sait des prises de position politiques de Clint Eastwood, c'est absolument absent du film. C'est-à-dire que je trouve que le film, au contraire, est plutôt sur l'Amérique comme pays raciste. Ce qui montre, c'est plutôt le racisme de la police et le racisme du personnage Clint Eastwood. Il est extrêmement superficiel et il y a même une forme de bienveillance. Quand tout à coup, il est confronté, par exemple, à un gang de filles lesbiennes en moto et qui leur dit « Salut les lesbiennes », c'est irrésistible parce qu'il y a quelque chose d'assez bienveillant. Salut les Gwyn. Dix. Donc je trouve que le film est absolument pas, qu'il faut surtout pas le chercher sur le terrain de l'idéologique parce qu'il est assez irréprochable de ce point de vue-là. Et moi je trouve vraiment assez génial. Je trouve que c'est un pur film d'artiste. Et même si dans les films des années 2010 de Clint Eastwood, il y en avait que j'aimais beaucoup, comme par exemple J. Edgar, je sentais qu'il y avait un poids de la production. On se demandait si c'était vraiment Eastwood lui-même qui faisait le film et dans quelle proportion. On sentait vraiment qu'il y avait une logistique mise à son service, au service de la marque Eastwood, qu'on se demandait un peu quelle était sa part à lui. Et là, c'est vraiment un film qui est totalement adapté à la pulsation de l'âge qu'il a. On a vraiment le sentiment que le film est à sa mesure, que c'est le film d'un vieil homme et que c'est bouleversant, qu'il y a quelque chose de souverain dans la manière dont le film prend son temps et la manière dont il donne en spectacle son corps, sa vieillesse, ce corps sacré dont il ne triche absolument pas sur la part d'affaiblissement. C'est à la fois bouleversant et c'est jamais solennel dans le côté crépusculaire. C'est toujours d'une liberté, d'une rôlerie, d'une fantaisie vraiment revigorante.
J'aime bien quand tu parles du corps sacré de Clint Eastwood.
Je
savais pas qu'il était mélanchonien, lui. La mule de Clint Eastwood, est-ce qu'il y a des réactions ici au Théâtre de l'Alliance française sur ce film? Non. Green Book, sur les routes du Sud, on reste aux États-Unis, de Peter Farrelly, qui nous a habitués à une belle succession de nanars jusque-là, avec ici Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, l'histoire très feel-good, il faut dire, sur le papier, d'une amitié improbable en 62, entre un agent de sécurité italo-américain, c'est Tony Lip, qui est joué donc par Viggo Mortensen, et un célèbre pianiste de jazz afro-américain, qui est Don Shirley, qui est Mahershala Ali, qu'il est chargé de conduire et de protéger pendant une tournée dans le très conservateur sud des États-Unis, le mot est faible. Le Green Book étant, là je le précise quand même, le guide de l'époque indiquant les lieux qui acceptent les gens de couleur. Dois-je ajouter donc, vous l'avez compris, puisque j'ai parlé de Don Shirley, que ce film est basé sur une histoire vraie. Une de plus, Don Shirley, pianiste de jazz, compositeur né en 27 et qui est mort en 2013 à Manhattan. Le film de 2h10, Jean-Marc.
Je pense un peu l'inverse de toi. C'est-à-dire que je considère Peter Farrelly comme un grand cinéaste qui a fait de très très grands films. Ah si, vraiment.
Oh, non.
Moi, je considère Marie à tout prix, Food Iran et Deux en un comme de très très beaux films, des films très drôles et très très beaux. Je trouve qu'il y avait une vision de l'humanité à l'œuvre dans le film de Farrelly, d'une grande complexité, d'une grande richesse, un contenu émotionnel qui s'équilibrait complètement avec leur puissance burlesque. Et là, je trouve que tout est un peu rapetissé. À la fois, je trouve que le film est de très bonne facture, c'est bien écrit, c'est évidemment très bien interprété, mais je trouve le film trop programmatique, trop étalonné dans sa gestion de toutes les émissions. C'est une logique de saupoudrage, un peu d'humour, un peu de quelque chose de plus corrosif politiquement, et puis tout à coup, un peu de pathos. Je trouve ça vraiment trop calculé, trop feel-good, pas assez dérangeant sur un sujet aussi puissant. Et je trouve que l'inversion, qui est vraiment une idée très forte de pitch de Miss Daisy et son chauffeur, où c'est l'homme noir qui est en fait l'homme, le bourgeois, et l'homme blanc qui est le chauffeur. C'est une idée très forte, mais que le film achemine vers uniquement de la réconciliation. Et finalement, je trouve pas ça tellement plus intéressant et moins consensuel que Miss Daisy et son chauffeur.
Michel ?
Alors moi, c'est le contraire. C'est la soustraction qui devient une addition. C'est-à-dire, il y a un frère en moins. Et je trouve qu'il y a deux fois plus de talent que dans les films habituels des Farrelly.
Ah oui, t'es
tout seul, il est meilleur qu'avec son frère, donc il faut l'encourager à continuer en solitaire. Mais
et Dardenne devrait faire pareil.
Néanmoins, je ne participe pas de ce mot d'esprit de Eric. Mais je trouve néanmoins que ce film, à côté du Eastwood, puisqu'il s'agit là aussi d'un road movie, d'un périple à travers l'Amérique, il est très appliqué. Il est pas mauvais, hein, c'est pas un mauvais film. Si les gens qui vont voir le film seront contents probablement, mais c'est vrai que ça a un côté feel good entre cet Italien raciste, vulgaire, etc., qui s'améliore en contact de ce noir qui lui est arrogant, qui d'ailleurs on découvre qu'il est non seulement victime du racisme des Blancs, mais que vis-à-vis des autres Noirs, sans doute, son élitisme ne plaît pas non plus. C'est un homme très solitaire. Voilà, ça, c'est intéressant, mais c'est tout de même limité. C'est un plaisir de voir le film.
Je trouve bien chichiteux, là, tous les deux.
Oui, non, mais j'ai bien aimé le film. Je ne veux pas du tout décourager d'y aller. Mais
on va pas tout
quand
bien
on
dire.
Voit à côté, quand on voit à côté de Eastwood, on n'est tout de même pas du tout au même niveau. Et par contre, alors je trouve la performance...
On est au-dessus du film d'Eva Ionesco, par exemple.
Voilà, d'accord. Ah, oui.
Pas tellement.
Mais alors, Viggo Mortensen, ce Danois qui joue un Italien mafieux un peu, il est assez étonnant dans sa composition. Cela dit, c'est pas du tout un grand film.
Eric ?
Je ne sais pas si c'est un grand film, c'est un très bon film. C'est du cinéma à l'ancienne, d'un classicisme revendiqué. Et ce Farrelly qui tournait des comédies débiles et sympathiques, là, il n'y aurait pas son nom sur l'affiche, personne ne pourrait soupçonner que c'est lui le réalisateur. C'est Driving Miss Daisy à l'envers, comme l'a dit Jean-Marc, mais ça marche aussi bien que le précédent. Et c'est pas gênant de voir que ce soit tiré d'une histoire vraie, même si c'est plein de bons sentiments, c'est optimiste, ça nous dit que le racisme peut se diluer dans l'amitié. Il y a plein de scènes très très marrante quand le chauffeur Rital lui fait découvrir à ce Jamaïcain snob comme un pot de chambre les Kentucky Fried Chicken, c'est tordant de rire. Parce que c'est ça qui est bien, c'est que le musicien lui, dont j'avais jamais entendu parler, hein, moi j'avoue, Don Charney là-haut.
Shirley.
Don Charney. Voilà, tu vois. Je suis sûr qu'il y a plein de spécialistes de lui depuis que le film est sorti, mais il est pas très sympathique. Et voir Mortensen, qui a pris 15 kilos, qui se révèle un acteur comique, mais épatant là-dedans. Et la dualité entre les deux, là, cette opposition, ça marche toujours dans le cinéma. Et puis voir un type qui est capable d'engloutir 26 hot dogs pour gagner $50, on comprend qu'il parte faire le chauffeur et qu'il en est marre de sa famille et de ses copains mafieux et qu'il accompagne ce pianiste. Non, mais le film est assez subtil, moi, je trouve. Finalement, il y a une révélation à un moment donné dans une auberge de jeunesse et le noir se retrouve en prison et il passe un coup de fil et on s'aperçoit que le type est quand même quelqu'un d'insoupçonné. Non, le film est très très bien.
Pierrot,
c'est vraiment gentil. Enfin, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Non, mais c'est bourré de clichés. Enfin, dès le gros bouseux américain plouc qui est nul. Mais
il est videur de boîte de nuit.
C'est pas une raison de mépriser le personnage comme ça. Et le black est naturellement sophistiqué, raffiné. Mais c'est des clichés. En veux-tu? Voilà. Alors, c'est le racisme vraiment pour les nuls. C'est... Alors, bien sûr que de temps à autre, il faut rappeler aux gens que le racisme, c'est très, très, très vilain, qu'il faut pas l'être, et que, en effet, un plouc américain peut découvrir, en voyageant avec lui, que les Noirs, eh ben, ils sont vraiment des gens très, très bien. Et à la fin, malgré tout, et ça se termine par des scènes dégoulinantes, enfin, je veux dire, au moment de Noël. Enfin, c'est pas possible. Enfin, il y a pas un atome de cinéma là-dedans. Alors, je sais pas si les Farrelly étaient, pardon, Jean-Marc, pas terrible, tous les deux, mais alors tout seul, il n'est pas mieux. Alors bien, c'est fait pour les Oscars, ça va obtenir deux Oscars.
Mais qu'est-ce que t'en meilleur sais
acteur,
Arrête, qu'est-ce
que t'en meilleur acteur et meilleur second rôle.
Et Roma, c'est le mieux placé, mais ça n'est pas le même niveau que Roma.
Enfin, pour les acteurs, c'est sûr que c'est eux qui vont l'avoir, parce que c'est fait comme ça. On peut y aller si on veut vraiment passer un moment...
T'as envie d'y aller après ce que tu viens de dire,
oui,
tiens.
Oui, mais non, franchement, parce que c'est généreux. Voilà.
Vas-y avec un chauffeur.
C'est généreux, mais alors tristement généreux. heureux.
Oh là là, Green Book sur les routes du Sud, Peter Farrelly. Est-ce qu'il y a des réactions ici? Non. Eh bien, on passe à Glass, le nouveau film que j'aurais du mal d'ailleurs à résumer. Thriller fantastique du toujours très attendu Night Shyamalan, réalisateur, vous le savez, du Sixième Sens, avec James McAvoy, Bruce Willis soi-même, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson, soit le dernier volet du triptyque commencé avec Incassable et suivi de Split. On retrouve donc Bruce Willis, alias David Byrne, l'Incassable, qui est justicier, qui est lancé dans Philadelphie à la poursuite de James McAvoy, alias Kevin Crumb, qui est le schizophrène aux 23 personnalités, un peu comme Pierre Murat.
Oui.
Et ils vont donc...
Ah, moi, c'est moins, un tout petit peu.
Ils vont direct à l'hôpital psychiatrique, ce qui est assez logique, d'ailleurs.
Oui.
Hein, où est interné depuis 16 ans Mr. Glass, c'est donc Jackson, qui a des os de verre, et il attend, lui, cet affrontement décisif avec une curiosité de metteur en scène, tandis que la psychiatre aux cheveux rouges, je ne sais pas si j'irai la voir, elle, Ellie Staple, qui est jouée par Sarah Paulson, va, au contraire, réunir ou tenter de réunir les deux surhommes pour les libérer de leur délire. Ça dure 2h09. Est-ce que tu en es sorti vivant, Pierre?
Oui. Pas dans un bon état, mais vivant. Moi, je trouve que...
Énorme succès, encore une fois, en salle.
Ouais, mais c'est... Alors, moi, je suis... Il a jamais fait que le Sixième Sens de bien, quand même. Faudra un jour qu'on le dise. Pratiquement tout le reste, c'est quand même des naftons fantastiques.
N'importe quoi.
Mais non, c'est un très mauvais
réalisateur. Le village, c'était bien.
Mais non, enfin, pardon, pour moi, non. Enfin, en tout cas, c'est... Donc, voilà, c'est la réunion de plusieurs héros qui... Alors, j'avais oublié combien James McAvoy dans Split faisait du cabotinage. Ça me l'a rappelé, parce que là, vraiment, c'est quand même énorme ce qu'il fait dans le genre cabot. Tout ça est absolument sans intérêt. C'est construit absolument de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages, plusieurs intrigues.
Alors, c'est-à-dire, il faut préciser qu'on peut le voir sans avoir vu,
puisque tout est expliqué,
voilà.
Tout nous est expliqué et réexpliqué, voilà. 3-4 fois. Et c'est construit un peu pareil, c'est qu'il y a à la fin, comme toujours.
Un retournement
que je dirais pas, mais c'est toujours pareil chez lui. C'est toujours construit un peu de la même façon. Ce cinéma commence à me lasser parce que c'est, contrairement aux apparences, un cinéma extrêmement peu inventif.
Jean-Marc?
Ben non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord déjà avec ton appréciation sur l'œuvre de Shyamalan, qui à mon avis a fait vraiment plusieurs très grands films.
Ah, lesquels?
Bah, par exemple, The Visit, je pense que c'est le film qui est sorti il y a 2 ans, et c'est vraiment le film de son retour en forme. Tout à coup, en baissant de niveau de production, il retrouvait une nervosité de série B, où il redevenait vraiment un grand cinéaste. Et je pense que ce film est à la croisée des deux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'électrique, comme dans une série B, comme dans les films qu'il fait depuis 2 ans. Et en même temps, il recycle toute sa réflexion sur ce qu'est un super-héros, ce qu'est une fiction, qu'il avait entamé dans ses films d'il y a 20 ans. Moi, le film vraiment me fascine, à la fois me procure un plaisir très très vif de cinéma américain d'action avec une économie de moyens impressionnante, c'est-à-dire que c'est un huis clos et en même temps c'est haletant, spectaculaire, ça déconstruit tous les codes du film de super-héros.
Pas l'économie de moyens.
Ah si tu compares un film super-héros Marvel, genre The Avengers, ça se passe dans 3 pièces, il y a très très peu d'effets spéciaux, c'est le contraire du spectaculaire du cinéma de super-héroïque d'aujourd'hui. C'est vraiment...
Les comédiens, eux, ne sont pas dans l'économie, t'es d'accord?
Non, mais alors, moi je le trouve génial, McAvoy, c'est-à-dire qu'il est complètement clownesque, mais il est à la fois hilarant et terrorisant, et je le trouve vraiment remarquable, et on a l'impression que dans la manière dont il zappe d'une personnalité à l'autre, il couvre tous les possibles de ce que peut un comédien, mais d'une façon vibrionnante, folle, affolée, qui me fascine absolument et me fait rire aussi. Je trouve que le film est très fort sur l'époque. C'est-à-dire qu'il y a une part de confusion, mais qui renforce ce que le film a de fascinant. Ça ressemble au monde dans lequel on vit. Ça brasse tout. Disons, on peut penser aux Gilets jaunes, on peut penser à Trump.
Il y a une espèce de
de compression de toutes les peurs et toutes les angoisses de l'époque, et ça en fait un objet fascinant et contemporain.
Éric?
Ah ben on n'y comprend rien, c'est une ragougnasse là, c'est pas un triptyque ce qu'il a fait, c'est une espèce de bouillabaisse avec tous les vieux restes de ses films précédents, parce que au départ j'ai pas l'impression que Incassable c'était prévu pour avoir une suite et même un troisième épisode. Ben, pourquoi pas, hein, s'il veut faire croire ça. Mais alors, tous ces gars-là se retrouvent, on ne sait pas pourquoi, dans le même hôpital psychiatrique. Sans doute que la psy avait vu les deux films, elle s'est dit, il faut qu'il soit avec moi. Alors, il y a Samuel Jackson, lui, il est sur une chaise totalement prostré. Il met 1 heure avant de bouger un petit doigt. Et on est un peu dans le même état à voir tous ces trucs-là. Et tout d'un coup, on découvre que ces gars-là, ces tueurs en série, sauf... comment il s'appelle, Bruce Willis, qu'on voit se balader en caouet sous la pluie pour sauver les gens. Et c'était des super-héros. Alors, mais on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Moi, je comprends rien aux comics. Je sais pas ce que c'est que les Avengers. Et c'est le grand guignol complet. C'est un vol au-dessus d'un nid de coucou pour geeks qui aiment les bandes dessinées débiles. Pardon, Jean-Marc.
Pas de moi, là.
Non, puis surtout, à la fin, on est menacé d'un quatrième épisode, visiblement, parce que... Alors, et si le film a marché si bien que ça, on va y avoir droit. Non, non, mais c'est... moi, je regrette le Shyamalan des débuts. D'ailleurs, on l'aperçoit à un moment donné, il joue un petit rôle de vendeur, et c'est ce qu'il a fait de mieux dans le film.
Michel ?
Oui, non, Shyamalan, il est tombé tellement bas, souvent, c'est des films d'un tel ennui, d'un tel vide... que celui-là, on peut pas s'ennuyer vraiment parce que
il est trop plein,
ça fait tellement de bruit, ça fait tellement de bruit, il se passe tellement de choses. Alors il y a un carteron de metteur en scène, une internationale composée de Gaspar Noé, de Winding Refn, de Lars von Trier et de Shyamalan. C'est les quatre là, je trouve. C'est des gens qui effectivement
comme, on peut les enfermer ensemble.
Comme le dit Jean-Marc, c'est vrai qu'ils reflètent la confusion du monde, mais ils se contentent de refléter la confusion par leur propre confusion. Et moi, ce que j'attends des grands artistes, c'est qu'ils m'éclairent le monde, c'est qu'ils me fassent comprendre cette confusion. C'est vrai que le monde dans lequel on vit est terrifiant.
Mais t'as pas vu les gilets jaunes d'Anglas, toi ?
Non, j'ai pas vu les gilets jaunes. C'est-à-dire que, vraiment, ils n'éclairent rien. C'est vraiment hallucinant. C'est-à-dire que plus les choses sont complexes, plus, justement, on doit faire preuve d'une intelligence du récit. Il n'y a aucune intelligence du récit, il y a une série d'effets. D'ailleurs, le film est aussi fragile que les os de Mr. Glass.
Glace de Night Shyamalan, des réactions sur ce film, non. Double vie au pluriel, un film en Super 16 d'Olivia Sayas. Le cinéaste de Sils Maria, d'ailleurs autre film sur l'héritage littéraire avec déjà Juliette Binoche. Et là, c'est avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne et Guillaume Canet. C'est Alain, un éditeur parisien qui se demande s'il ne doit pas abandonner le bon vieux livre papier pour l'e-book. Il se le demande d'autant plus qu'il passe, il faut dire, beaucoup de temps au lit avec sa jolie conseillère au numérique qui est jouée par Christa Terray. Alain est par ailleurs marié. Ah là, il faut commencer à me suivre en m'écoutant tranquillement. Hein. Alain est par ailleurs marié avec Selena, c'est Juliette Binoche, qui est vedette d'une série télé dont l'amant, vous me suivez, est Léonard, qui est Vincent Macaigne, qui est un écrivain adepte de l'autofiction, une sorte de Christine Angot barbu, dont Alain vient de refuser le nouveau manuscrit. On peut se réécouter, hein, si vous avez perdu, grâce au podcast. J'oubliais, Léonard est le mari de Valérie, qui est assistante parlementaire, et qui est jouée d'ailleurs par l'excellente Nora Hamzaoui. Bref, c'est Courteline chez Libre, c'est Guitry à Saint-Germain-des-Prés, à l'époque de la liseuse électronique, des blogs, des tweets et du tout à l'ego. Eric, qui connaît bien le monde de l'édition, est-ce que tu l'as reconnu dans Double Vie ?
Oui, beaucoup, mais je me demande s'il n'y a pas une supercherie ou un canular derrière tout ça, parce que c'est pas possible qu'un type comme Assayas, qui est un des cinéastes les plus chichiteux que je connaisse, ait réussi à faire... Ah oui, toujours. Ait réussi à faire un film drôle, juste, vivant. Je n'en reviens pas. Je pense que c'est une affaire à jarre à l'envers, là, qu'on a sous les yeux. Mais tant mieux, hein. Moi, je ne demande que ça, d'aimer un film d'un cinéaste que j'aime pas d'habitude. Et là, c'est très, très juste. Le monde de l'édition, c'est complètement ça. Personne ne lit rien, tout le monde a envie de coucher avec tout le monde. Et la petite erreur, c'est qu'ils habitent tous des appartements absolument somptueux. Et ça, je suis pas sûr que même les éditeurs parisiens soient logés à cette enseigne-là. Non, le film est
pareil. La séquence de signature dans une librairie.
C'est très, très juste. Très juste, hein. Les émissions de radio Macaigne aussi, l'ego des auteurs.
Et même le masque et la plume qui, à un moment donné, évoqué. Ouais.
Macaigne est vraiment d'une justesse, l'auteur paumé complet. Même Juliette Binoche est supportable, alors ça je n'en reviens pas.
C'est vrai.
Elle se moque d'elle-même, il y a un clin d'œil à un moment donné.
Vous la verrez bientôt dans un très bon film, je trouve, qui est celle que vous croyez, adapté d'un roman justement de Camille Laurent.
Le film est parisien, mais dans le bon sens du terme. On va dire que c'est snob, que c'est élitiste, mais c'est un film sur un petit milieu qui est comme ça, qui existe, et on voit que le monde de l'édition a vraiment changé. Au début, ils vont déjeuner au restaurant et l'éditeur prend de l'eau. Et on voit l'œil de l'auteur un peu déçu de ne pas avoir de vin, parce que dans l'édition, même quand ça marche, les éditeurs ne boivent plus, n'ont plus de notes de frais. Et ça, je pense que c'est encore plus grave que l'arrivée du numérique pour remplacer le papier.
Pierre ?
Eh ben, c'est en effet un film sur un monde snob et élitiste, mais c'est un film snob et élitiste. C'est un film que je déteste. Je suis pas un grand fan d'Olivier Assayas, je dois dire. Alors moi, je ne sais pas, si vous me dites que le monde de l'édition est comme ça, vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi, et je veux bien l'admettre, mais c'est pas une raison, parce que c'est comme ça, de le peindre aussi, de façon... Attendez, les dialogues, il y a des dialogues, mais vous pouvez pas vous faire une idée de la prétention et de la sottise. J'en ai trouvé un. Qu'est-ce que t'appelles la post-vérité ? La post-vérité permet aux gens de vivre dans un monde déterminé par leurs propres préjugés. C'est comme ça pendant une demi-heure au début. C'est insoutenable. Et comme en plus le sujet...
On dirait Télérama.
Je t'interdis de dire ça, parce que j'ai jamais écrit comme ça, moi. Alors vraiment, il y en a peut-être... Cite des noms, mais pas moi, alors vraiment...
Non, mais vraiment, Pierre, c'est au second degré, ça. Tu l'as compris,
non,
quand
alors,
même.
Je crois pas que je crois pas mais que si. Olivier Assayas, quand même. Attends, j'ai quand même vu pas mal de ses films. Je n'ai pas noté un atome d'humour dans Sils Maria. Non, non, mais dans Sils Maria, dans Personal Shopper, c'est un cinéaste
totalement satirique, enfin, Pierre.
Oui,
c'est un vaudeville satirique.
Oui, c'est un vaudeville, mais c'est un pauvre vaudeville avec des gens que je n'ai pas envie de fréquenter. Je vois pas pourquoi je perdrais mon temps à voir des snobs mondains. Un crétin pendant 1h40, je vois pas.
46.
46, voilà. Et ben 46, voilà.
Michel ?
Mais non, moi, d'abord, Assayas est inégal, mais comme tous les gens de talent, il prend des risques et parfois il se ramasse, et là, je trouve qu'il réussit. Il n'avait jamais fait vraiment une comédie, parce que c'est une comédie, la référence. Tu en as cité, bien sûr, Jérôme, mais pour moi, c'était plutôt Woody Allen qui s'imposait comme référence, c'est-à-dire prendre un milieu. Alors, de même qu'on a reproché à Woody Allen que son New York est dépourvu de noirs, etc., que c'est uniquement des gens assez riches dans des milieux intellectuels, on fait le même reproche à Assayas. Mais la référence, pour moi, c'est vraiment Woody Allen, c'est-à-dire effectivement les coucheries et en même temps la peinture d'un milieu, ici le milieu d'édition. Dans l'Obs, il y avait une très bonne enquête où la plupart beaucoup d'éditeurs disaient.
Oui, j'avais envoyé des éditeurs voir le film.
Beaucoup d'éditeurs disaient non, c'est pas du tout comme ça. Non,
on ne couche pas ensemble.
Mais ça, c'est classique.
Moi, je peux les dénoncer.
C'est classique. Dès qu'on fait un film sur les policiers ne se reconnaissent pas. C'est un film sur les profs ne se reconnaissent pas. C'est classique. Les gens n'aiment pas. Tout milieu social refuse d'être représenté. Mais je trouve le film très, très plaisant, extrêmement plaisant. C'est une veine qu'il n'a jamais abordée, encore une fois. J'ai trouvé Nora Hamzaoui absolument.
Ah oui, elle est incroyable.
Absolument,
c'est une vraie révélation, hein.
Absolument formidable.
Même Pierre dit oui.
Oui.
Silencieusement, mais il le dit.
Silencieusement. Je ne suis pas d'accord avec Binoche, parce que depuis quelque temps, elle redevient une très grande comédienne dans plusieurs films.
Ah.
Et donc, je trouve le film est à voir. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'au Festival de Venise, il a eu un accueil. En Italie, le film cartonne, bien qu'il soit français. C'est plus tellement la mode en Italie. C'est un grand succès. Et je ne sais pas ce qui se passe à Paris. Il y a eu effectivement une sorte de bataille d'Hernani que ce film ne mérite pas.
Jean-Marc ?
Oui, moi je trouve le film extrêmement réussi. Et il y a, comme le dit Michel, c'est un cinéaste qui prend tout le temps des risques, Olivier Assayas. Et là, il y a ce pari formel un peu fou de construire les dialogues du film comme un débat d'idées, de façon extrêmement dialectique, où tous les personnages commentent sans arrêt le monde dans lequel on vit, la façon dont ils mutent et la difficulté qu'ils ont à s'y adapter. Donc ça donne un film extrêmement bavard, mais je trouve que c'est... que le film est extrêmement virtuose dans la manière de conduire ses dialogues, qu'il y a vraiment un plaisir du langage, c'est une comédie de langage, effectivement, comme l'a dit Michel, assez proche de Woody Allen, et c'est vraiment un cinéma de satiriste, et en même temps, il a toujours une très grande intelligence de ses personnages, Olivier Assayas, il y a toujours un moment où ils deviennent extrêmement attachants, et le regard devient tendre et bienveillant, même s'ils ne ratent pas leur petit travers. Donc moi, je trouve le film extrêmement enlevé, extrêmement plaisant, assez jubilatoire.
Double vie d'Olivier Assayas, pas de réaction, c'est une réaction. Bonsoir.
Alors bonsoir, moi je voudrais soutenir Pierre Murat, parce que franchement, je me faisais une joie d'aller voir ce film. C'était quand même un exploit d'enquiller des monologues qui répètent toujours la même chose, ah là là, le livre, le numérique, sauf qu'on n'y comprend rien, c'est affreux.
Merci pour cette intervention lapidaire.
Merci.
Rien d'autre sur ce film, sinon notre intervention devant toujours dans ce joli théâtre de l'Alliance française. Le micro vient vers vous. Bonsoir.
Bonsoir. Donc je suis un petit peu encouragée par l'intervention précédente. Moi, j'ai eu l'impression de déranger. Je me suis vraiment demandé ce que je faisais là. Et c'est un entre-soi... Germano Pratin, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Voilà. J'étais triste pour les acteurs qui sont, je trouve, effectivement très bien, mais enfin, un ennui total. J'ai réussi à pas dormir, je sais pas comment.
Merci, au moins c'est clair et net. Allez, on va aller plus vite parce qu'il ne reste pas un temps fou. L'incroyable histoire du facteur cheval de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin dans le rôle titre, mais aussi Laetitia Casta dans le rôle de sa femme Philomène. J'ai pas très bien compris. Bernard Lecoq également. L'histoire du célèbre facteur Ferdinand Cheval qui évidemment est assez passionnante puisque pendant 33 ans, vous le savez, dans son village de la Drôme où il distribuait les lettres, il a érigé seul, pierre après pierre, j'allais dire coquillage après coquillage, son palais idéal, un temple kitsch de la nature, haut de 12 mètres et long de 26, que les gens du coin appelaient la maison du Fada. C'est Gamblin, donc, qui, dans un rôle taillé pour lui, a enfilé le costume et la casquette du préposé au courrier. Le facteur cheval, je le rappelle à Eric, est mort le 19 août 1924 à Haute-Rive, à 88 ans, à l'âge de Clint Eastwood. Son palais est classé monument historique et reçoit d'ailleurs beaucoup de visiteurs chaque année, plus de 150 000 l'année dernière. On va aller vite, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette histoire, n'est-ce pas, Jean-Marc ?
Oui, c'est, en effet, c'est un film assez peu inspirant, qui ressemble un peu à l'idée qu'on peut s'en faire a priori. J'ai l'impression que Gamblin a essayé de croiser le facteur cheval avec un autre facteur célèbre du genre du cinéma, c'est Tati dans Jour de fête. C'est-à-dire qu'il essaie d'adopter une mimique burlesque, mais il a d'assez faibles aptitudes, je trouve, en la matière. Il est jamais drôle, jamais très performant, et du coup, il appauvrit énormément le personnage, le réduit à des borborimes. Sinon, esthétiquement, c'est vraiment chromo sur chromo. C'est tellement climatisé, tellement rusé sur un grand artiste naïf que c'est vraiment une croûte très très ennuyeuse.
Oui, Michel.
Non, je suis pas d'accord. Je trouve que l'approche de Nils Tavernier, c'est une approche d'empathie et de modestie. C'est-à-dire, c'est un film qui cherche pas du tout l'effet. C'est un film qui est d'ailleurs, je trouve que Gamblin est.
Bah oui, mais on en voudrait un peu de l'effet quand même.
Gamblin mais non, je trouve pas. Gamblin est formidable. Et en plus, le sujet me passionne parce que.
Ah oui, le sujet est passionnant.
Par André Breton, c'est lui qui a beaucoup promu le facteur cheval.
Et non, ce facteur. André Breton n'était pas cinéaste.
C'est parce qu'il est à pied qu'il a pu construire, parce que à chaque fois qu'il faisait sa tournée, s'il avait été en deux chevaux, cheval, eh bien, il n'aurait pas pu trouver toutes ces pierres, avec lesquelles il construit.
C'est une sorte d'architecte. Une morale.
C'est une sorte d'architecte surréaliste. Il anticipe sur Dali. Ça rappelle Angkor, ça rappelle Gaudi à Barcelone. Donc, je trouve qu'il traite son sujet comme son père l'avait fait, comme un dimanche à la campagne. C'est-à-dire, il traite son sujet avec une très grande sensibilité. Et l'acteur principal, je le trouve absolument formidable. Je trouve que ce que fait Gamblin, justement, est magnifique. Et le film est tout à fait intéressant. C'est une biographie filmée comme il y en a eu d'autres, mais qui nous renseigne sur un personnage que je ne connaissais pas dans le détail comme il le fait.
Eric ?
Bah, évidemment, dès qu'il y a cheval dans le titre, tu nous envoies voir le film. Alors, là.
Après, on parlera de vrais chevaux.
Oui. Non, mais le film, si vous avez vu l'affiche qui est très kitsch, très illustrée, le film est à cette image-là, hein, c'est pas un film vraiment utile. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a toujours dit que Gamblin était un sou du tronc, et il a dû se dire, tiens, il a fait Van Gogh, moi je vais faire le facteur cheval. Et c'était pas une très bonne idée. Là. C'est un film bizarrement très lisse, et avec une image très léchée, qui est vraiment le contraire de ce que ça devrait être, la folie de ce gars-là qui trouve un jour.
Il raconte vraiment rien. Bah,
rien, qui trouve un caillou tarabiscoté.
Et on voit que c'est un obsessionnel.
Oui, on est parti pour 33 ans, là.
Avec quand tu sors de glace, c'est pas du tout.
Il y a Laetitia Casta qui ne vieillit absolument pas. Alors maintenant, on sait comment séduire Laetitia Casta. Faut passer devant elle tous les matins sans rien dire avec une sacoche. Elle va vous épouser. Et on sait pas pourquoi non plus. On sait pas pourquoi il se met à construire ce truc-là. Ce facteur est complètement timbré, mais c'est sa seule qualité.
Alors,
je suis d'accord avec Michel. Je trouve que c'est un film modeste et pas sympatoche, mais il y a un peu de ça. Il y a quelques scènes vraiment très réussies, comme par exemple la scène où il reçoit une décoration, là, pour 30 ans de bons et loyaux services. Bah, ça, c'est un peu ce que Tavernier père faisait dans Le Juge et l'Assassin. Alors, je pense que Nils Tavernier.
Pas de drame dans la famille.
Nils Tavernier sera peut-être pas content que je le compare évidemment à Bertrand, mais il y a un peu cette approche des gens. Je trouve pas ça déshonorant du tout. Voilà.
L'incroyable histoire du facteur cheval Nils Tavernier. Continuez, voilà, Les vrais chevaux, le nouveau film de Joachim Lafosse, le réalisateur belge de L'économie du couple et de Nue propriété, avec Virginie Efira, Cassé Motéclin et deux chevaux qui jouent très bien l'un et l'autre. C'est l'adaptation du roman de Laurent Mauvignier pour le sauver de son, comment dire, de son nihilisme et de son mutisme aussi. Une mère qui est divorcée, Sybille, emmène son fils Samuel effectuer ce que tu ne feras jamais, Eric, qui est un trek équestre au Kirghizistan, un pays de steppe où celui qui n'a pas de cheval n'a pas de pied. Du roman de Mauvignier, Lafosse a enlevé ce qui précède et ce qui suit le voyage pour ne garder que cette expédition au cours de laquelle va se reformer peu à peu, et non sans mal, le lien entre la femme et son fils. Le fils rebelle, donc, qui a 16 ans dans le livre, en a 20 dans le film, c'est Cassé Motéclin. Et la mère, c'est donc Virginie Efira, pour ce film continué, qui est une véritable ode à l'équithérapie. Eric.
Bah, c'est drôle que ça s'appelle continuer, parce qu'il faudrait que ça commence à un moment donné, le film. On sait absolument pas quels sont les rapports entre ces deux-là, parce que, ce qui s'est passé.
Parce que ça, il l'a enlevé du livre.
Oui, mais c'est une erreur, j'imagine. Je n'ai pas lu le livre, mais alors là, on s'en fout complètement de ce qui leur arrive. Cette Virginie Efira, on la regarde et on se dit que, pour elle, qu'est-ce qui était le plus difficile, prononcer Kirghizistan ou apprendre à monter à cheval? Les deux, on sent qu'elle est pas très à l'aise. Le gamin monte très bien.
Je suis
pas spécialiste comme toi. Mais alors, cette balade là à travers ces grands espaces, c'est connaissance du monde, ou Asie centrale, terre de contraste. Là, à un moment donné, il y a des sables mouvants. On se dit pourvu qu'ils s'enfoncent complètement là-dedans. Et qu'on en finisse, parce que ce gamin est une vraie tête à claque.
D'ailleurs, cette scène est assez étonnante, parce que les chevaux s'en sortent très bien.
Oui, là, mais les chevaux sont très bons, hein. Et la mère boit beaucoup de vodka, le fils joue du pistolet, mais moi j'ai trouvé ça sans intérêt, nul et non avenu.
Pierre?
Moi j'aime beaucoup Joachim Lafosse, et j'aime bien quand il fait Nue propriété, Élève libre, qui sont des films magnifiques, L'économie du couple, qui est formidable, et il peint toujours, et il sait faire ça, il filme des affrontements. Le petit problème que j'ai là, c'est que autant le gamin Cassé Motéclin, qui est formidable, je trouve, il y a une espèce de révolte, en plus c'est un type, je crois, formidable, il a acheté le cheval sur lequel il monte, il s'en occupe, enfin vraiment il aime beaucoup les chevaux, ça se sent, et bon, et ben là on comprend que c'est un adolescent en révolte, mais le petit problème c'est qu'il n'y a pas de, il y a de l'autre côté, il n'y a personne, il y a une mère absolument formidable. Or il me semble que il aurait fallu que le personnage de Virginie Efira soit,
existe,
une méchante.
Non, dans le livre c'est une femme brisée et une femme qui a vécu le pire. Enfin,
elle est brisée, là, elle chante du Pierre Perret.
Mais là, non. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, elle flirte vaguement avec un type, le fils est pas content, mais on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gamin insupportable? Et je crois que ça vient un peu de Virginie Efira. C'est pas qu'elle soit mauvaise, mais c'est qu'elle n'a visiblement pas voulu jouer une mauvaise. Il n'y a plus d'affrontement, et donc il n'y a plus de film.
Michel?
Oui, ben c'est vrai qu'il avait traité toujours des huis clos anxiogènes, et là il sort pour les grands espaces. Alors, je suis pas d'accord avec Eric, parce que il y a pas du tout de folklore dans ce film, il aurait pu sur le Kirghizistan justement.
Un peu à la fin.
Très peu. Les paysages, ils sont là, je veux dire, ils sont là, ils les filment, parce que c'est là aussi un road movie, il n'arrête pas de parcourir les paysages, donc le chef opérateur fait son travail, l'artiste aussi, le metteur en scène. Donc c'est normal. Dire qu'il n'y a pas de sujet, si, c'est tout de même une femme qui essaye de rattraper le temps perdu, qui essaye de retrouver une proximité avec son fils. C'est capital.
Surtout de le sauver.
Mais de quoi? En se rapprochant de lui, parce qu'ils ont été séparés.
On sent qu'il a fait beaucoup de conneries.
Ils ont eu des tas de problèmes entre eux, et elle essaye dans ce voyage de retrouver son fils. Donc c'est un beau sujet.
Oui. Continuez de Joachim Lafosse, et on termine toujours rapidement avec L'Ordre des médecins, qui n'est pas un nouveau volet de la saga hippocratique du docteur Thomas Lilti. C'est le tout premier film de David Roux, avec Jérémy Régnier, Marthe Keller, Zita Enro, Maud Wheeler, un film qui explore, si j'ose dire, la part intime du corps médical. Simon, c'est Jérémy Régnier, qui a 37 ans, dirige un service de pneumologie, et c'est dans son hôpital, mais dans une unité voisine, que sa mère, Mathilde, Marthe Keller, est traité pour une grave maladie. Vous avez compris que Simon va, en se mettant en vacances de son service et troquer la blouse blanche contre le t-shirt, va évidemment essayer de rester le fils que parfois le médecin a pu éclipser. Pas de pathos, où donc Jérémy Régnier incarne ce médecin dont les certitudes vacillent, et où, dans un rôle qui est toujours très difficile évidemment, Marthe Keller m'a paru tout à fait bouleversante. Jean-Marc.
Oui, moi aussi, le film m'a ému et un peu en chemin. C'est-à-dire qu'au début, c'est difficile de pas le comparer quand même à Hippocrate. Et on se dit qu'aujourd'hui, ce que le cinéma d'auteur peut proposer en matière de reconstitution d'un milieu, c'est quand même un peu contraint, qu'il n'y a pas la puissance de production d'Hippocrate qui réussit complètement à crédibiliser le milieu qu'il décrit. Et qu'en même temps, le film ne choisit pas une stylisation comme on pense à du Philippe Faucon, mais ça ne va pas à ce degré-là, disons, d'épuration. Donc c'est un peu un moyen terme esthétique qui fait que le film a du mal à se trouver, mais finalement, sur les personnages, sur une sorte de lien que le film entretient avec ce qu'il raconte, c'est très inspiré, très habité. Marthe Keller est très émouvante, et lorsque le film se ressent vraiment sur le rapport entre le fils et la mère, sur les scènes de soins, par exemple, lorsqu'il lui masse les jambes, sur des choses très simples comme ça, le film réussit à être extrêmement émouvant et sensible.
Alors je précise qu'il n'est... D'abord, j'imagine que quand tu parles d'épuration, tu voulais dire épure. Enfin, je pense...
Oui,
que...
oui.
Non, parce que je le dis, parce que ça pourrait être mal compris. Et deuxièmement, surtout que, contrairement à Lilti, ben, il n'est pas médecin. Mais en revanche, c'est une histoire personnelle.
Familiale.
Familiale, puisque son frère est médecin. Michel.
Oui, moi, j'ai bien aimé surtout l'interprétation de Régnier et le personnage lui-même, le rapport avec sa mère, etc. Je suis un peu fatigué. À un moment, on reprochait au cinéma français de ne pas être assez social. C'est pour des débats, ce genre de film, sur telle catégorie de français, tel métier. Ça manque de souffle, ça manque de complexité. Enfin, on va voir un magnifique film de Ozon bientôt, qui lui a un vrai souffle, qui est un grand film romanesque en même temps.
Ça n'a rien à voir.
Je parle.
Le film d'Ozon est sur la,
oui,
est sur Barbarin et
j'ai pas
et
dit,
le,
j'ai
et
pas
le
dit
Père
que c'est le même sujet.
Là, c'est sur la vie quotidienne dans un hôpital.
J'ai pas dit que c'est le même sujet. Je dis que ce sont des approches de problèmes contemporains, la vie dans un hôpital, la pédophilie dans l'église, etc. On verra avec Ozon quelque chose qui a un vrai souffle, qui a quelque chose de fort.
Il n'allait pas faire un film sur la pédophilie dans les hôpitaux, non plus.
Il y a trop de films.
Ça viendra.
Il y a trop de films français qui restent dans le micro-climat, dans le micro-réalisme. Et ce que j'ai aimé, encore une fois, c'est l'acteur. Mais, par exemple, le bizutage et tout ça, les scènes un peu d'orgiaque sont ridicules. L'histoire d'amour.
Bon, ça, c'est rien, c'est rien.
Oui, mais peut-être, peut-être.
C'est un peu trop, justement.
Mais c'est trop.
Il gagnerait à être
resserré
sur son
histoire sentimentale est tout à fait cliché. Donc, c'est pas un grand film du tout. C'est un film honnête, avec des qualités, pas plus.
Eric,
c'est pas un grand film, mais c'est un bon téléfilm. C'est un film. Oh. Ah, mais si, c'est pudique, c'est décent, mais c'est pas bouleversant. Mais moi, je sauve Jérémy Régnier, qui est un acteur français bien des sûr, plus intéressants maintenant. Marthe Keller, qui peut aller, elle peut lire.
Je suis fou de
le bottin. Je serais en train de l'applaudir. Et puis il y a la chanson de Colette Magny, Mélocotone, oui, qui est toujours agréable à entendre. Et j'espère que c'est un film remboursé par la sécurité sociale.
Pierre,
moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça vraiment très bien.
Voilà, enfin quelqu'un.
Et très pudique justement parce que il y a beaucoup de films actuellement qui se vautrent dans les larmes. Et là, c'est uniquement sensible, c'est délicat, c'est très bien fait. Le personnage du fils, par exemple, il le filme souvent marchant dans les sous-sols de l'hôpital, comme s'il était à la recherche de quelque chose, de quelqu'un, de lui-même, évidemment. Et toutes les scènes avec Marthe Keller, qui est bouleversante, et ben ça marche très bien. Je trouve que c'est vraiment un joli petit film.
Je trouve qu'il fait une chose qui est pas évidente, c'est que, évidemment, en vertu du principe l'habit fait le moine, on voit bien qu'en retirant sa blouse blanche,
oui,
il devient vraiment un autre homme, et c'est pas évident à jouer, ça, je veux dire.
Oui, c'est ça. Puis il se rend compte, en effet, que c'est très facile d'être relativement indifférent au malheur d'autrui. Ils sont obligés de l'être, et brusquement, quand ça vous arrive à soi, et ben, évidemment, tout ça devient extrêmement différent. Et je trouve que c'est montré avec beaucoup de subtilité. Voilà.
Est-ce qu'il y a sur l'ordre des médecins des réactions dans la salle? Non. Eh bien, on va terminer tranquillement avec des conseils que vous allez offrir aux auditeurs. Voilà, films, DVD, livres, pizzeria, ce que vous voulez, Pierre.
Alors, rapidement, deux films qui vont sortir mercredi prochain. L'un, c'est un premier film français.
Mercredi prochain.
Le premier s'appelle L'amour debout de Michael Dacheux. Et alors, c'est vraiment un film très joli, sensible, délicat. C'est un film qui donne vraiment beaucoup d'espoir, c'est-à-dire que c'est plutôt rare. En général, on est dans la sinistrose totale, et là, vraiment, les mésaventures sentimentales de ces jeunes gens et jeunes filles aboutissent à quelque chose dont on sort ragaillardi et heureux. C'est plutôt rare, donc je vous le recommande. Ça s'appelle L'amour debout de Michael Dacheux. Et puis alors un autre film très vite qui s'appelle Un grand voyage vers la nuit, le film chinois de Bi Gan, qui est splendide. C'est un jeune cinéaste qui aime Patrick Modiano, et ça se sent dans la première partie du film. C'est encore des amours perdus. Un type qui part à la recherche du film. Et puis au milieu du film, qui dure 2h15, il y a le film recommence, ça devient un plan séquence d'1h10. Donc, caméra n'est jamais interrompue, et c'est magistral de beauté et d'émotion. Un grand voyage vers la nuit.
Et le conseil d'Éric ?
Une reprise, Macadam à deux voix de Monty Hellman, qui date de 71. C'est un road movie sur deux paumés qui sont au volant d'une Chevy 55 et qui rencontrent en chemin une autre voiture et ils font la course pour aller jusqu'à Washington et le gagnant aura la voiture du perdant. Et c'est un film hallucinant, complètement désespéré, nihiliste, avec une fin que Pierre n'a pas intérêt à raconter, qui est une des fins les plus étonnantes qu'on ait vues au cinéma.
Mon conseil, c'est pas forcément du très grand cinéma, mais c'est de la très bonne enquête. Ça s'appelle Un berger et deux perchés à l'Élysée de Pierre Carles et Philippe Lespinasse qui ont suivi et même conseillé Jean Lassalle quand il s'est présenté à la présidentielle de 2017. Alors, les deux là, ils caressaient l'espoir, il faut dire, de métamorphoser l'ancien vice-président du Modem en héros béarnais de l'anticapitalisme.
Il y a des sous-titres, j'espère.
Alors, évidemment, le politique Lassalle laisse un peu sceptique, ça, j'en conviens, mais l'acteur Lassalle, il est formidable. On dirait une sorte de Jacques Tati gaulien, de Don Quichotte à poney. Et puis, quand même, c'est la preuve qu'il n'y a pas de place à l'Élysée pour les irréguliers, les poètes, enfin, bref, les gens Lassalle, quoi. Un berger et deux perchés à l'Élysée de Pierre Carles et Philippe Lespinasse. Le conseil de Michel.
Alors, deux conseils. D'abord, un double DVD d'un des plus grands cinéastes coréens, Bong Joon-ho, l'auteur de Mother et de Okja, c'est ses Memories of Murder, qui est un film policier de 2004, extraordinaire. C'est l'Arabia qui édite cela, avec 7 scènes coupées, des entretiens avec lui, avec son musicien, un making-of, un documentaire. Enfin, c'est tout sur ce chef-d'œuvre du cinéma policier coréen. Et puis, comme film, un film dans la même veine que Ralph Waltz avec Bachir, qui s'appelle Another Day of Life, qui est de Raoul de la Fuente et Damien Lehoux, qui a reçu le prix du meilleur film d'animation européen de l'année, dans les prix du cinéma européen. C'est sur l'indépendance de l'Angola à travers le personnage de cet extraordinaire écrivain reporter qui est Ryszard Kapuscinski, qui est évidemment, c'est un génie du reportage. On a publié en biblio il y a 1000. Mais oui, non, mais écoutez, il est mondialement connu, excusez-moi.
Chez lui, aux heures d'herpas.
Kapuscinski, écoutez, excusez-moi.
Mais on te croit, mais on a honte.
Non, il n'y a pas à avoir honte. C'est édité en France, tous ses livres se vendent en poche et tout. Sur le Négus, sur l'Angola, et là, c'est le récit qu'il a fait de la guerre en Angola. Il y a un voyage en Russie qui est prodigieux.
Ah oui.
Oui, mais enfin, je veux dire, c'est facile de se moquer de son ignorance, mais je veux dire, c'est pas... Franchement, je ne suis pas en train de dégoter quelqu'un. Il y a eu des articles partout, dans l'Observateur, dans Le Monde, dans tous les journaux. Kapuscinski est mort il y a une vingtaine d'années, et c'était un très grand reporter qui parcourait le monde et qui faisait des récits de 300 pages sur tout ce qui se passait sur la planète, et en particulier sur la guerre. Ce film est absolument magnifique, et encore une fois, c'est le meilleur film d'animation de l'année.
Jean-Marc.
Moi, je vais parler de Une jeunesse dorée, d'Eva Ionesco, si tu m'y autorises, Jérôme. Donc, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. J'aimais déjà beaucoup le premier long métrage d'Eva Ionesco, My Little Princess, dans lequel elle évoquait son enfance de modèle pour sa mère photographe, de modèle abusé. Là, elle étudie une étape postérieure de sa biographie, qui est son adolescence de clubbeuse au Palace et sa première déception amoureuse. Et c'est un film... Le film très rapidement devient un huis clos. Il y a quelque chose pour moi de la poésie de Cocteau, du Cocteau des enfants terribles, qui passe dans ce...
enfants pas terribles.
Jérôme suffoque. Non, il y a vraiment quelque chose dans la poésie bricolée, dans son sens du petit théâtre, dans la manière de filmer les tissus, les matières, quelque chose qui pour moi renvoie au cinéma de Cocteau.
Presque tous ces conseils, vous les trouvez sur le site. Et la plume franceinter.fr. Merci Jean-Marc Lalanne, Michel Simon, Pierre Murat, Éric Neuf pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et ce soir au théâtre de l'Alliance Française à la Technique, et je les remercie beaucoup, Stéphane Desmond, Valentin Azan Zilinski ainsi que Nicolas Depagraf. La réalisation était de Xavier
Pestugia, notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du masque, il aura lieu ici même au Théâtre de l'Alliance Française, 101 Boulevard Raspail, Paris 6e, le jeudi 7 février, pour deux émissions, l'une consacrée à la remise de votre prix, le 29e prix des auditeurs du Masque et la Plume, et l'autre à l'actualité du cinéma. Dans une semaine, on parlera de théâtre, et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.